Chapitre 6. L'eau, la fuite. Au fur et à mesure que les voyageurs avançaient, le pays prenait un aspect étrange. Il semblait que les campagnes fussent désertées, comme les bourgs et les villages. En effet, nulle part les vaches paissant dans les prairies, nulle part la chèvre se suspendant au flanc de la montagne ou se dressant le long des haies pour atteindre les bourgeons verts des ronces et des vignes vierges, nulle part le troupeau et son berger, nulle part la charrue et son travailleur. Plus de marchands forains passant d'un pays à l'autre, sa balle sur le dos, plus de charretiers chantant le chant rauque de l'homme du Nord et qui se balance en marchant près de sa lourde charrette un fouet bruyant à la main. Aussi loin que s'étendait la vue dans ces plaines magnifiques, sur les petits coteaux, dans les grandes herbes à la lisière des bois, pas de figure humaine, pas une voix. On eût dit la nature la veille du jour où l'homme et les animaux furent créés. Le soir venait. Henri, saisi de surprise et rapproché par le sentiment des voyageurs qui le précédaient, Henri demandait à l'air, aux arbres, aux horizons lointains, aux nuages même, l'explication de ce phénomène sinistre. Les seuls personnages qui animassent cette morne solitude, c'était, se détachant sur la teinte pourprée du soleil couchant, Remy et sa compagne, penchés pour écouter si quelque bruit ne viendrait pas jusqu'à eux. Puis, en arrière, à 100 pas d'eux, la figure de Henri, conservant sans cesse la même distance et la même attitude. La nuit descendit, sombre et froide, le vent du nord-ouest siffla dans l'air et emplit ces solitudes de son bruit plus menaçant que le silence. Remy arrêta sa compagne en posant la main sur la reine de son cheval. « Madame, lui dit-il, vous savez si je suis inaccessible à la crainte. Vous savez si je ferai un pas en arrière pour sauver ma vie. Eh bien, ce soir, quelque chose d'étrange se passe en moi. Une torpeur inconnue enchaîne mes facultés, me paralyse et me défend d'aller plus loin. Madame, appelez cela terreur, timidité, panique même. Madame, je vous le confesse, pour la première fois de ma vie, j'ai peur. » La dame se retourna. Peut-être tous ces présages menaçants lui avaient-ils échappé, peut-être n'avait-elle rien vu. « Il est toujours là ? » demanda-t-elle. « Oh, ce n'est plus de lui qu'il est question, » répondit Remy. « Ne songez plus à lui, je vous en prie. Il est seul et je vaux un homme seul. Non, le danger que je crains, ou plutôt que je sens, que je devine avec un sentiment d'instinct, bien plutôt qu'à l'aide de ma raison, ce danger qui s'approche, qui nous menace, qui nous enveloppe peut-être, ce danger est autre. » Il est inconnu, et voilà pourquoi je l'appelle un danger. » La dame secoua la tête. « Tenez, madame, dit Remy, voyez-vous là-bas des saules qui courbent leurs cimes noires ?»« Oui. » »« Et à côté de ces arbres, j'aperçois une petite maison. Par grâce, allons-y. Si elle est habitée, raison de plus pour que nous y demandions l'hospitalité. Si elle ne l'est pas, emparons-nous-en, madame. Ne faites pas d'objection, je vous en supplie. » L'émotion de Remy, sa voix tremblante, l'incisive persuasion de ses discours décidèrent sa compagne à céder. Elle tourna la bride de son cheval dans la direction indiquée par Remy. Quelques minutes après, les voyageurs heurtaient la porte de cette maison, bâtie en effet sous un massif de saules. Un ruisseau, affluent de la Nette, petite rivière qui coulait à un quart de lieue de là, un ruisseau, enfermé entre deux bras de roseaux et deux livres de gazon, baignait le pied des saules de son eau murmurante. Derrière la maison, bâtie en briques et couverte de tuiles, s'arrondissait un petit jardin enclos d'une haie vive. Tout cela était vide, solitaire, désolé. Personne ne répondit aux coups redoublés que frappèrent les voyageurs. Remy n'hésita point. Il tira son couteau, coupa une branche de saule, l'introduisit entre la porte et la serrure et pesa sur le pêne. La porte s'ouvrit. Remy entra vivement. Il mettait à toutes ses actions, depuis une heure, l'activité d'un homme travaillé par la fièvre. La serrure, produit grossier de l'industrie d'un forgeron voisin, avait cédé presque sans résistance. Remy poussa précipitamment sa compagne dans la maison, poussa la porte derrière lui, tira un verrou massif, et ainsi retranché, respira comme s'il venait de gagner la vie. Non content d'avoir abrité ainsi sa maîtresse, il l'installa dans l'unique chambre du premier étage où, en tâtonnant, il rencontra un lit, une chaise et une table. Puis, un peu tranquillisé pour son compte, il redescendit au rez-de-chaussée et, par un contrevent entr'ouvert, il se mit à guetter, par une fenêtre grillée, les mouvements du comte qui, en les voyant entrer dans la maison, s'en était rapproché à l'instant même. Les réflexions de Henri étaient sombres et en harmonie avec celles de Remy. Bien certainement, se disait-il, quelque danger inconnu à nous, mais connu des habitants, plane sur le pays. La guerre ravage la contrée. Les Français ont emporté Anvers ou vont l'emporter. Saisis de terreur, les paysans ont été chercher un refuge dans les villes. Cette explication était spécieuse et cependant, elle ne satisfaisait pas le jeune homme. D'ailleurs, elle le ramenait à un autre ordre de pensée. Que vont faire de ce côté Remy et sa maîtresse, se demandait-il. Quelle impérieuse nécessité les pousse vers ce danger terrible. Ah, je le saurai, car le moment est enfin venu de parler à cette femme et d'en finir à jamais avec tous mes doutes. Nulle part encore l'occasion ne s'est présentée aussi belle. Et il s'avança vers la maison. Mais tout à coup il s'arrêta. Non, non, dit-il, avec une de ces hésitations subites si communes dans les cœurs amoureux. Non, je serai martyr jusqu'au bout. D'ailleurs, n'est-elle pas maîtresse de ses actions, et sait-elle quelle fable a été forgée sur elle par ce misérable Remy? Oh, c'est à lui seul que j'en veux, à lui qui m'assurait qu'elle n'aimait personne. Mais, soyons justes encore, cet homme devait-il, pour moi, qui ne connais pas, trahir les secrets de sa maîtresse? Ah, non, non, mon malheur est certain, et ce qu'il y a de pire dans mon malheur, c'est qu'il vient de moi seul, et que je ne puis en rejeter le poids sur personne. Ce qui lui manque, c'est la révélation entière de la vérité, c'est de voir cette femme arriver au camp, suspendre ses bras au cou de quelque gentilhomme, et lui dire « Ah, vois ce que j'ai souffert, et comprends combien je t'aime !» Eh bien, je la suivrai jusque-là, je verrai ce que je tremble de voir, et j'en mourrai. Ce sera de la peine épargnée au mousquet ou au canon. Hélas, vous le savez, mon Dieu, ajoutait Henri avec un de ses élans, comme il en trouvait parfois au fond de son âme, pleine de religion et d'amour, je ne cherchais pas cette suprême angoisse, je m'en allais souriant à une mort réfléchie, calme, glorieuse. Je voulais tomber sur le champ de bataille avec un nom sur les lèvres, le vôtre, mon Dieu, avec un nom dans le cœur, le sien. Vous ne l'avez pas voulu, vous me destinez à une mort désespérée, pleine de fiel et de torture. Soyez béni, j'accepte. » Puis, se rappelant ses jours d'attente et ses nuits d'angoisse qu'il avait passées en face de cette inexorable maison, il trouvait qu'à tout prendre, à part ce doute qui lui rongeait le cœur, la position était moins cruelle qu'à Paris, car il la voyait parfois, il entendait le son de sa parole qu'il n'avait jamais entendu, et marchant à sa suite, quelques-uns de ces arômes vivaces qui émanent de la femme que l'on aime venaient, mêlés à la brise, lui caresser le visage. Aussi continuait-il, les yeux fixés sur cette chaumière où elle était enfermée. Mais, en attendant cette mort et tandis qu'elle repose dans cette maison, je prends ces arbres pour abri. Et je me plains, moi qui puis entendre sa voix si elle parle, moi qui puis apercevoir son ombre derrière la fenêtre. Oh non, non, je ne me plains pas. Seigneur, Seigneur, je suis encore trop heureux. » Et Henri se coucha sous les saules, dont les branches couvraient la maison, écoutant avec un sentiment de mélancolie impossible à décrire le murmure de l'eau qui coulait à ses côtés. Tout à coup, il tressaillit. Le bruit du canon retentissait du côté du nord et passait, emporté par le vent. « Ah, se dit-il, j'arriverai trop tard, on attaque Anvers. » Le premier mouvement de Henri fut pour se lever, remonter à cheval et courir, guidé par le bruit, là où l'on se battait. Mais pour cela, il fallait quitter la dame inconnue et mourir dans le doute. S'il ne l'avait point rencontrée sur la route, Henri eût suivi son chemin, sans un regard en arrière, sans un soupir pour le passé, sans un regret pour l'avenir. Mais, en la rencontrant, le doute était entré dans son esprit, et dans le doute, l'irrésolution. Il resta. Pendant 2 heures, il resta couché, prêtant l'oreille aux détonations successives qui arrivaient jusqu'à lui, se demandant quelles pouvaient être ces détonations irrégulières et plus fortes qui, de temps en temps, étaient venues couper les autres. Il était loin de se douter que ces détonations étaient causées par les vaisseaux de son frère qui sautaient. Enfin, vers 2 heures, tout se calma, vers 2 heures et demie, tout se tut. Le bruit du canon n'était point parvenu, à ce qu'il paraissait, dans l'intérieur de la maison, ou s'il y était parvenu, les habitants provisoires y étaient demeurés insensibles. « À cette heure, se disait Henri, Anvers est prise, et mon frère est vainqueur. Mais après Anvers viendra Gand, après Gand, Bruges, et l'occasion ne me manquera pas de mourir glorieusement. Mais avant de mourir, je veux savoir ce que va chercher cette femme au camp des Français. » Et comme à la suite de toutes ces commotions qui avaient ébranlé l'air, la nature était rentrée dans son repos, joyeuse, enveloppée dans son manteau, rentra dans son immobilité. Il était tombé dans une espèce d'assoupissement auquel, vers la fin de la nuit, la volonté de l'homme ne put résister, lorsque son cheval, qui paissait à quelques pas de lui, dressa l'oreille et hennit tristement. Henri ouvrit les yeux. L'animal, debout sur ses 4 pieds, la tête tournée dans une autre direction que celle du corps, aspirait la brise qui, ayant tourné à l'approche du jour, venait du sud-est. « Qu'y a-t-il, mon bon cheval ? » dit le jeune homme en se levant et en flattant le cou de l'animal avec sa main. « Tu as vu passer quelque loutre qui t'effraie ou tu regrettes l'abri d'une bonne étable ?» L'animal, comme s'il eût entendu l'interpellation et comme s'il eût voulu y répondre, se porta d'un mouvement franc et vif dans la direction de l'Ire, et, l'œil fixe et les naseaux ouverts, il écouta. « Ah !» murmura Henri, « c'est plus sérieux à ce qu'il paraît. Quelques troupes de loups suivant les armées pour dévorer les cadavres ?» Le cheval hennit, baissa la tête, puis, par un mouvement rapide comme l'éclair, il se mit à fuir du côté de l'ouest. Mais en fuyant, il passa à la portée de la main de son maître, qui le saisit par la bride comme il passait et l'arrêta. Henri, sans rassembler les rênes, l'empoigna par la crinière et sauta en selle. Une fois là, comme il était bon cavalier, il se fit maître du cheval et le contint. Mais au bout d'un instant, ce que l'animal avait entendu, Henri commença de l'entendre lui-même, et cette terreur qu'avait ressentie la brute grossière, l'homme fut étonné de la ressentir à son tour. Un long murmure, pareil à celui du vent strident et grave à la fois, s'élevait des différents points d'un demi-cercle qui semblait s'étendre du sud au nord. Des bouffées d'une brise fraîche et comme chargées de particules d'eau s'éclaircissaient par intervalles dans ce murmure qui alors devenait semblable au fracas des marées montantes sur les grèves caillouteuses. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Henri. « Serait-ce le vent ? » ?»« Non, puisque c'est le vent qui m'apporte ce bruit et que les deux sons m'apparaissent distincts. Une armée en marche, peut-être ? » ?»« Mais non !» Il pencha son oreille vers la terre. J'entendrai la cadence des pas, le froissement des armures, l'éclat des voix. Est-ce le crépitement d'un incendie ? Non, encore, car on n'aperçoit aucune lueur à l'horizon et le ciel semble même se rembrunir. Le bruit redoubla et devint distinct. C'était le roulement incessant, ample, grondant, que produisaient des milliers de canons traînés au loin sur un pavé sonore. Henri crut un instant avoir trouvé la raison de ce bruit en l'attribuant à la cause que nous avons dite, mais aussitôt, « Impossible, dit-il, il n'y a point de chaussée pavée de ce côté, il n'y a pas 1000 canons dans l'armée. » Le bruit approchait toujours. Henri mit son cheval au galop et gagna une éminence. « Que vois-je » s'écria-t-il en atteignant le sommet. Ce que voyait le jeune homme, son cheval l'avait vu avant lui, car il n'avait pu le faire avancer dans cette direction qu'en lui déchirant le flanc avec ses éperons. Et lorsqu'il fut arrivé au sommet de la colline, il se cabra à renverser son cavalier sous lui. Ce qu'il voyait, cheval et cavalier, c'était à l'horizon une bande blafarde, immense, infinie, pareille à un niveau, s'avançant sur la plaine, formant un cercle immense et marchant vers la mer. Et cette bande s'élargissait pas à pas aux yeux de Henri comme une étoffe qu'on déroule. Le jeune homme regardait encore, indécis, cet étrange phénomène, lorsqu'en ramenant sa vue sur la plage qu'il venait de quitter, il s'aperçut que la prairie s'imprégnait d'eau, que la petite rivière débordait et commençait de noyer, sous sa nappe, soulevée sans cause visible, les roseaux qui, un quart d'heure auparavant, se hérissaient sur les deux rives. L'eau gagnait tout doucement du côté de la maison. Ah, malheureux insensé que je suis, s'écria Henri, je n'avais pas deviné. C'est l'eau, c'est l'eau. Les flamands ont rompu leur digue. Henri s'élança aussitôt du côté de la maison et heurta furieusement la porte. Ouvrez, ouvrez, cria-t-il. Nul ne répondit. Ouvrez, remit, cria le jeune homme furieux, à toute force de terreur. Ouvrez, c'est moi, Henri du Bouchage, ouvrez. Oh, vous n'avez pas besoin de vous nommer, monsieur le comte, répondit Remy de l'intérieur de la maison. Il y a longtemps que je vous ai reconnu, mais je vous préviens d'une chose, c'est que si vous enfoncez cette porte, vous me trouverez derrière elle, un pistolet à chaque main. Mais tu ne comprends pas, malheureux, cria Henri avec un accent désespéré. L'eau, l'eau, c'est l'eau. Pas de fable, pas de prétexte, pas de ruse déshonorante, monsieur le comte. Je vous dis que vous n'entrerez ici qu'en me passant sur le corps. Alors j'y passerai, s'écria Henri, mais j'entrerai. Au nom du ciel, au nom de Dieu, au nom de ton salut et de celui de ta maîtresse, veux-tu ouvrir? Non. Le jeune homme regarda autour de lui et aperçut une de ces pierres homériques comme en faisait rouler sur ses ennemis Ajax Télamon. Il souleva cette pierre entre ses bras, l'éleva sur sa tête et, s'avançant vers la maison, il la lança dans la porte. La porte vola en éclats. En même temps, une balle siffla aux oreilles de Henri, mais sans le toucher. Henri sauta sur Remy. Remy tira son second pistolet, mais l'amorce seule prit feu. « Mais tu vois bien que je n'ai pas d'arme insensée, » s'écria Henri. « Ne te défends donc pas contre un homme qui n'attaque pas. Regarde seulement, regarde !» Et il le traîna près de la fenêtre qu'il enfonça d'un coup de poing. « Eh bien, dit-il, vois-tu maintenant, vois-tu » Et il lui montrait du doigt la nappe immense qui blanchissait à l'horizon et qui grondait en marchant, comme le front d'une armée gigantesque. « L'eau !» murmura Remy. « Oui, l'eau, l'eau !» cria Henri. « Elle envahit, vois à nos pieds, la rivière déborde, elle monte. Dans 5 minutes, on ne pourra plus sortir d'ici. »« Madame !» cria Remy. « Madame !» Pas de cri, pas d'effroi, Remy, prépare les chevaux, et vite, vite. Il l'aime, pensa Remy, il la sauvera. Remy courut à l'écurie. Henri s'élança vers l'escalier. Au cri de Remy, la dame avait ouvert la porte. Le jeune homme l'enleva dans ses bras, comme il l'eût fait d'un enfant. Mais elle, croyant à la trahison ou à la violence, se débattait de toutes ses forces et se cramponnait aux cloisons. Dis-lui donc, cria Henri, dis-lui que je la sauve. Remy entendit l'appel du jeune homme au moment où il revenait avec les deux chevaux. « Oui, oui, cria-t-il, oui, madame, il vous sauve, ou plutôt, il vous sauvera, venez, venez !» Henri, sans perdre de temps à rassurer la dame, l'emporta hors de la maison et voulut la placer avec lui sur son cheval. Mais elle, avec un mouvement d'invincible répugnance, glissa hors de cet anneau vivant et fut reçue par Remy, qui l'assit sur le cheval préparé pour elle. « Oh, que faites-vous, madame ?» dit Henri. « Et comment comprenez-vous mon cœur ? Il ne s'agit pas pour moi, croyez-le bien, du plaisir de vous serrer dans mes bras, de vous presser sur ma poitrine d'homme, quoique, pour cette faveur, je fusse prêt à sacrifier ma vie. Il s'agit de fuir plus rapide que l'oiseau. Et tenez, tenez, les voyez-vous, les oiseaux qui fuient ?» En effet, dans le crépuscule, à peine naissant encore, on voyait des nuées de courlis et de pigeons traverser l'espace d'un vol rapide et effaré, et dans la nuit, domaine ordinaire de la chauve-souris silencieuse, ces vols bruyants, favorisés par la sombre rafale, avaient quelque chose de sinistre à l'oreille, d'éblouissant aux yeux. La dame ne répondait rien, mais comme elle était en selle, elle poussa son cheval en avant sans détourner la tête. Mais son cheval et celui de Remy, forcés de marcher depuis 2 jours, étaient fatigués. À chaque instant, Henri se retournait et, voyant qu'il ne pouvait suivre, « Voyez, disait-il, comme mon cheval devance les vôtres, et pourtant je le retiens des deux mains. Par grâce, madame, tandis qu'il en est temps encore, je ne vous demande plus de vous emporter dans mes bras, mais prenez mon cheval et laissez-moi le vôtre. » « Merci, monsieur, » répondit la voyageuse de sa voix toujours calme et sans que la moindre altération se trahît dans son accent. Mais, madame, s'écriait Henri, en jetant derrière lui des regards désespérés, l'eau nous gagne, entendez-vous, entendez-vous? En effet, un craquement terrible se faisait entendre en ce moment même. C'était la digue d'un village que venait d'envahir l'inondation. Madriers, supports, terrasses avaient cédé, un double rang de pilotis s'était brisé avec le fracas du tonnerre, et l'eau, grondant sur toutes ces ruines, commençait d'envahir un bois de chêne dont on voyait frissonner les cimes et dont on entendait craquer les branches, comme si tout un vol de démons passait sous sa feuillée. Les arbres déracinés s'entrechoquant aux pieux, les bois des maisons écroulés flottant à la surface de l'eau, les hennissements et les cris lointains des hommes et des chevaux entraînés par l'inondation formaient un concert de sons si étrange et si lugubre que le frisson qui agitait Henri passa jusqu'à l'impassible cœur de l'inconnu. Elle aiguillonna son cheval, et son cheval, comme s'il eût senti lui-même l'imminence du danger, redoubla d'efforts pour s'y soustraire. Mais l'eau gagnait toujours, et avant 10 minutes, il était évident qu'elle aurait rejoint les voyageurs. À chaque instant, Henri s'arrêtait pour attendre ses compagnons, et alors il leur criait « Plus vite, madame, par grâce, plus vite, l'eau s'avance, l'eau accourt, la voici !» Elle arrivait en effet, écumeuse, tourbillonnante, irritée. Elle emporta, comme une plume, la maison dans laquelle Remy avait abrité sa maîtresse. Elle souleva, comme une paille, la barque attachée aux rives du ruisseau, et, majestueuse, immense, roulant ses anneaux comme ceux d'un serpent, elle arriva, pareil à un mur, derrière les chevaux de Remy et de l'inconnu. Henri jeta un cri d'épouvante et revint sur l'eau comme s'il eût voulu la combattre. « Mais vous voyez bien que vous êtes perdue !» hurla-t-il, désespéré. « Allons, madame, il est temps peut-être. Encore, descendez, venez avec moi, venez !»« Non, monsieur, » dit-elle. « Mais dans 1 minute, il sera trop tard. Regardez, regardez donc !» La dame détourna la tête. L'eau était à 50 pas à peine. « Que mon sort s'accomplisse, » dit-elle. « Vous, monsieur, fuyez, fuyez !» Le cheval de Remy, épuisé, buta des deux jambes en avant et ne put se relever malgré les efforts de son cavalier. « Sauvez-la, sauvez-la, fût-ce malgré elle !» s'écria Remy. Et en effet, comme il se dégageait des étriers, l'eau s'écroula comme un gigantesque monument sur la tête du fidèle serviteur. La maîtresse, à cette vue, poussa un cri terrible et s'élança en bas de sa monture, résolue à mourir avec Remy. Mais Henri, voyant son intention, s'était élancé en même temps qu'elle. Il la saisit en enveloppant sa taille avec son bras droit, et remontant sur son cheval, il partit comme un trait. « Remy, Remy !» criait la dame, les bras étendus de son côté. « Remy !» Un cri lui répondit. Remy était revenu à la surface de l'eau, et avec cet espoir indomptable, bien qu'insensé, qui accompagne le mourant jusqu'au bout de son agonie, il nageait, soutenu par une poutre. À côté de lui passa son cheval, battant l'eau désespérément avec ses pieds de devant, tandis que le flot gagnait le cheval de sa maîtresse et que, devant le flot, à 20 pas tout au plus, Henri et sa compagne ne couraient pas, mais volaient sur le troisième cheval, fou de terreur. Remy ne regrettait plus la vie, puisqu'il espérait en mourant que celle qu'il aimait uniquement serait sauvée. « Adieu, madame, adieu » cria-t-il, « je pars le premier et je vais dire à celui qui nous attend que vous vivez pour... » Remy n'acheva point. Une montagne d'eau passa sur sa tête et alla s'écrouler jusque sous les pieds du cheval de Henri. « Remy, Remy !» cria la dame, « Remy, je veux mourir avec toi. Monsieur, je veux l'attendre. Monsieur, je veux mettre le pied à terre. Au nom du Dieu vivant, je le veux !» Elle prononça ces paroles avec tant d'énergie et de sauvage autorité que le jeune homme desserra ses bras et la laissa glisser à terre en disant « Bien, madame, nous mourrons ici, tous trois. Merci à vous qui me faites cette joie que je n'eusse jamais espérée. » Et comme il disait ces mots, en retenant son cheval, l'eau bondissante l'atteignit comme elle avait atteint Remy. Mais, par un dernier effort d'amour, il retint par le bras la jeune femme qui avait mis pied à terre. Le flot les envahit, la lame furieuse les roula durant quelques secondes, pêle-mêle avec d'autres débris. C'était un spectacle sublime que le sang-froid de cet homme si jeune et si dévoué, dont le buste tout entier dominait le flot, tandis qu'il soutenait sa compagne de la main et que, de ses genoux, guidant les derniers efforts du cheval expirant, il cherchait à utiliser jusqu'aux suprêmes efforts de son agonie. Il y eut un moment de lutte terrible, pendant lequel la dame, soutenue par la main droite de Henri, continuait de dépasser de la tête le niveau de l'eau, tandis que de la main gauche, Henri écartait les bois flottants et les cadavres dont le choc eût submergé ou écrasé son cheval. Un de ces corps flottants, en passant près d'eux, cria, ou plutôt soupira, « Adieu, madame, adieu !»« Par le ciel !» s'écria le jeune homme, « c'est remis, eh bien, toi aussi je te sauverai !» Et, sans calculer le danger de ce surcroît de pesanteur, il saisit la manche de Remy, l'attira sur sa cuisse gauche et le fit respirer librement. Mais, en même temps, le cheval, épuisé du triple poids, s'enfonçait jusqu'au cou, puis jusqu'aux yeux. Enfin, les jarrets brisés, pliant sous lui, il disparut tout à fait. « Il faut mourir, » murmura Henri. « Mon Dieu, prends ma vie, elle est pure. Vous, madame, » ajouta-t-il, « recevez mon âme, elle était à vous. » En ce moment, Henri sentit que Remy lui échappait. Il ne fit aucune résistance pour le retenir, toute résistance était inutile. Son seul soin fut de soutenir la dame au-dessus de l'eau, pour qu'elle, au moins, mourût la dernière, et qu'il se pût dire à lui-même, à son dernier moment, qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour la disputer à la mort. Et tout à coup, et comme il ne songeait plus qu'à mourir lui-même, un cri de joie retentit à ses côtés. Il se retourna et vit Remy, qui venait d'atteindre une barque. Cette barque était celle de la petite maison que nous avons vue soulevée par l'eau. L'eau l'avait entraîné, et Remy, qui avait repris ses forces grâce au secours que lui avait porté Henri, Remy, la voyant passer à sa portée, s'était détaché du groupe, haletant, et en deux brassées l'avait atteinte. Ses deux rames étaient attachées à son bordage, une gaffe roulait au fond. Il tendit la gaffe à Henri, qui la saisit, entraînant avec lui la dame qu'il souleva par-dessus ses épaules et que Remy reprit de ses mains. Puis, lui-même, saisissant le rebord de la barque, il monta après d'eux. Les premiers rayons du jour naissaient, montrant les plaines inondées, et la barque se balançant comme un atome sur cet océan tout couvert de débris. À 200 pas, à peu près, vers la gauche, s'élevait une petite colline qui, entièrement entourée d'eau, semblait une île au milieu de la mer. Henri saisit les avirons et rama du côté de la colline, vers laquelle d'ailleurs le courant les portait. Remy prit la gaffe et, debout à l'avant, s'occupa d'écarter les poutres et les madriers contre lesquels la barque pouvait se heurter. Grâce à la force de Henri, grâce à l'adresse de Remy, on aborda, ou plutôt on fut jeté contre la colline. Remy sauta à terre et saisit la chaîne de la barque qu'il tira vers lui. Henri s'avança pour prendre la dame entre ses bras, mais elle étendit la main, et se levant seule, elle sauta à terre. Henri poussa un soupir. Un instant où il eut l'idée de se rejeter dans l'abîme et de mourir à ses yeux. Mais un irrésistible sentiment l'enchaînait à la vie, tant qu'il voyait cette femme dont il avait si longtemps désiré la présence sans l'obtenir jamais. Il tira la barque à terre et alla s'asseoir à 10 pas de la dame et de Remy, livide, dégoûtant d'une eau qui s'échappait de ses habits, plus douloureuse que le sang. Ils étaient sauvés du danger le plus pressant, c'est-à-dire de l'eau. L'inondation, si forte qu'elle fût, ne montrait jamais à la hauteur de la colline. Au-dessous d'eux, dès lors, ils pouvaient contempler cette grande colère des flots, qui n'a de colère au-dessus d'elle que celle de Dieu. Henri regardait passer cette eau rapide, grondante, qui charriait des amas de cadavres français et près d'eux leurs chevaux et leurs armes. Remy ressentait une vive douleur à l'épaule et un madrier flottant l'avait atteint au moment où son cheval s'était dérobé sous lui. Quant à sa compagne, à part le froid qu'elle éprouvait, elle n'avait aucune blessure. Henri l'avait garantie de tout ce dont il était en son pouvoir de la garantir. Henri fut bien surpris de voir que ces deux êtres, si miraculeusement échappés à la mort, ne remerciaient que lui et n'avaient pas eu pour Dieu, premier auteur de leur salut, une seule action de grâce. La jeune femme fut debout la première. Elle remarqua qu'au fond de l'horizon, du côté de l'Occident, on apercevait quelque chose comme des feux à travers la brume. Il va sans dire que ces feux brûlaient sur un point élevé que l'inondation n'avait pu atteindre. Autant qu'on pouvait en juger, au milieu de ce froid crépuscule qui succédait à la nuit, ces feux étaient distants d'une lieue environ. Remy s'avança sur le point de la colline qui se prolongeait du côté de ces feux, et il revint dire qu'il croyait qu'à 1000 pas à peu près de l'endroit où l'on avait pris terre, commençait une espèce de jetée qui s'avançait en droite ligne vers ces feux. Ce qui faisait croire à Remy à une jetée, ou tout au moins à un chemin, c'était une double ligne d'arbres, directe et régulière. Henri fit à son tour ses observations, qui se trouvèrent concordées avec celles de Remy. Mais cependant, il fallait, dans cette circonstance, donner beaucoup au hasard. L'eau, entraînée par la déclivité de la plaine, les avait rejetés à gauche de leur route, en leur faisant décrire un angle considérable. Cette dérivation, ajoutée à la course insensée des chevaux, leur ôtait tout moyen de s'orienter. Il est vrai que le jour venait, mais nuageux et tout chargé de brouillard. Dans un temps clair et sous un ciel pur, on eût aperçu le clocher de Malines, dont on ne devait pas être éloigné de plus de 10 lieues. Eh bien, monsieur le comte, demanda Remy, que pensez-vous de ces feux? Ces feux qui semblent vous annoncer à vous un abri hospitalier me semblent menaçants à moi, et je m'en défie. Et pourquoi cela? Remy, dit Henri en baissant la voix, voyez tous ces cadavres, tous sont français, pas un flamand. Ils nous annoncent un grand désastre. Les digues ont été rompues pour achever de détruire l'armée française si elle était vaincue, pour détruire l'effet de sa victoire si elle a triomphé. Pourquoi ces feux ne seraient-ils pas aussi bien allumés par des ennemis que par des amis, ou pourquoi ne seraient-ils pas tout simplement une ruse ayant pour but d'attirer les fugitifs? Et cependant, dit Remy, nous ne pouvons demeurer ici. Le froid et la faim tueraient ma maîtresse. Vous avez raison, Remy, dit le comte. Demeurez ici avec madame. Moi, je vais gagner la jetée et je viendrai vous apporter des nouvelles. Non, monsieur, dit la dame, ne vous exposez pas seul. Nous nous sommes sauvés tous ensemble, nous mourrons tous ensemble. Remy, votre bras, je suis prête. Chacune des paroles de cette étrange créature avait un accent irrésistible d'autorité auquel personne n'avait l'idée de résister un seul instant. Henri s'inclina et marcha le premier. L'inondation était plus calme. La jetée qui venait d'aboutir à la colline formait une espèce d'anse où l'eau s'endormait. Tous trois montèrent dans le petit bateau et le bateau fut lancé de nouveau au milieu des débris et des cadavres flottants. Un quart d'heure après, ils abordaient à la jetée. Ils assurèrent la chaîne du bateau au pied d'un arbre, prirent terre de nouveau, suivirent la jetée pendant 1 heure à peu près, et arrivèrent à un groupe de cabanes flamandes, au milieu desquelles, sur une place plantée de tilleuls, étaient réunis, autour d'un grand feu, 200 ou 300 soldats, au-dessus desquels flottaient les plis d'une bannière française. Tout à coup, la sentinelle, placée à 100 pas à peu près du bivouac, aviva la mèche de son mousquet en criant « Qui vive ?»« France !» répondit du bouchage. Puis, se retournant vers Diane, « Ah, maintenant, madame, dit-il, vous êtes sauvée. Je reconnais le guidon des gendarmes d'Aunis, corps de noblesse dans lequel j'ai des amis. » Au cri de la sentinelle et à la réponse du comte, quelques gendarmes accoururent en effet au-devant des nouveaux venus, 2 fois bien accueillis au milieu de ce désastre terrible, d'abord parce qu'ils survivaient au désastre, ensuite parce qu'ils étaient des compatriotes. Henri se fit reconnaître, tant personnellement qu'en nommant son frère. Il fut ardemment questionné et raconta de quelle façon miraculeuse lui et ses compagnons avaient échappé à la mort, mais sans rien dire d'autre chose. Remy et sa maîtresse s'assirent silencieusement dans un coin. Henri les alla chercher pour les inviter à s'approcher du feu. Tous deux étaient encore ruisselants d'eau. Madame, dit-il, vous serez respectée ici comme dans votre maison. Je me suis permis de dire que vous étiez une de mes parentes, pardonnez-moi. et sans attendre les remerciements de ceux auxquels il avait sauvé la vie, Henri s'éloigna pour rejoindre les officiers qui l'attendaient. Remy et Diane échangèrent un regard qui, s'il eût été vu du comte, eût été le remerciement si bien mérité de son courage et de sa délicatesse. Les gendarmes d'Aunis, auxquels nos fugitifs venaient de demander l'hospitalité, s'étaient retirés en bon ordre après la déroute et le sauve-qui-peut des chefs. Partout où il y a homogénéité de position, identité de sentiment et l'habitude de vivre ensemble, il n'est point rare de voir la spontanéité dans l'exécution après l'unité dans la pensée. C'est ce qui était arrivé cette nuit même aux gendarmes d'Aunis. Voyant leur chef les abandonner et les autres régiments chercher différents partis pour leur salut, ils s'entre-regardèrent, serrèrent leurs rangs, au lieu de les rompre, mirent leurs chevaux au galop, et, sous la conduite d'un de leurs enseignes, qu'ils aimaient fort à cause de sa bravoure et qu'ils respectaient à un degré égal à cause de sa naissance, ils prirent la route de Bruxelles. Comme tous les acteurs de cette terrible scène, ils virent tous les progrès de l'inondation et furent poursuivis par les eaux furieuses. Mais le bonheur voulut qu'ils rencontrassent sur leur chemin le bourg dont nous avons parlé, position forte à la fois contre les hommes et contre les éléments. Les habitants, sachant qu'ils étaient en sûreté, n'avaient pas quitté leur maison, à part les femmes, les vieillards et les enfants qu'ils avaient envoyés à la ville. Aussi, les gendarmes d'Aunis, en arrivant, trouvèrent-ils de la résistance, mais la mort hurlait derrière eux. Ils attaquèrent en hommes désespérés, triomphèrent de tous les obstacles, perdirent 10 hommes à l'attaque de la chaussée, mais se logèrent et firent décamper les flamands. Une heure après, le bourg était entièrement cerné par les eaux, excepté du côté de cette chaussée par laquelle nous avons vu aborder Henri et ses compagnons. Tel fut le récit que firent à Dubouchage les gendarmes d'Aunis. « Et le reste de l'armée ? » demanda Henri. « Regardez, » répondit l'enseigne, « à chaque instant passent des cadavres qui répondent à votre question. »« Mais, mon frère, » hasarda Dubouchage d'une voix étranglée, « hélas, monsieur le comte, nous ne pouvons vous en donner des nouvelles certaines. Il s'est battu comme un lion. 3 fois nous l'avons tiré du feu. » Il est certain qu'il avait survécu à la bataille, mais à l'inondation, nous ne pouvons le dire. Henri baissa la tête et s'abîma dans d'amères réflexions. Puis tout à coup, « Et le duc » demanda-t-il. L'enseigne se pencha vers Henri, et à voix basse, « Comte, dit-il, le duc s'était sauvé dans les premiers. Il était monté sur un cheval blanc sans aucune tache, avec seulement une étoile noire au front. » Eh bien, tout à l'heure, nous avons vu passer le cheval au milieu d'un amas de débris. La jambe d'un cavalier était prise dans l'étrier et surnageait à la hauteur de la selle. « Grand Dieu !» s'écria Henri. « Grand Dieu !» murmura Remy, qui, à ces mots du comte et le duc, s'était levé et venait d'entendre ce récit. Ses yeux se reportèrent vivement sur sa pâle compagne. « Après ?» demanda le comte. « Oui, après !» balbutia Remy. Eh bien, dans le remous que formait l'eau à l'angle de cette digue, un de mes hommes s'aventura pour saisir les rênes flottantes du cheval. Il l'atteignit et souleva l'animal expiré. Nous vîmes alors apparaître la botte blanche et l'éperon d'or que portait le duc. Mais, au même instant, l'eau s'enfla, comme si elle se fût indignée de se voir arracher sa proie. Mon gendarme lâcha prise pour n'être point entraîné, et tout disparut. Nous n'aurons même pas la consolation de donner une sépulture chrétienne à notre prince. Mort, mort, lui aussi, l'héritier de la couronne, quel désastre, hein. Remy se retourna vers sa compagne et avec une expression impossible à rendre. S'il est mort, madame, dit-il, vous voyez. Sois loué le Seigneur qui m'épargne un crime, répondit-elle, en levant en signe de reconnaissance les mains et les yeux au ciel. « Oui, mais il nous enlève la vengeance, » répondit Remy. « Dieu a toujours le droit de se souvenir. La vengeance n'appartient à l'homme que lorsque Dieu oublie. » Le comte voyait avec une espèce d'effroi cette exaltation des deux étranges personnages qu'il avait sauvés de la mort. il les observait du coin de l'œil et cherchait inutilement, pour se faire une idée de leurs désirs ou de leurs craintes, à commenter leurs gestes et l'expression de leur physionomie. La voix de l'enseigne le tira de sa contemplation. « Mais vous-même, comte, demanda celui-ci, qu'allez-vous faire ?» Le comte tressaillit. « Moi, dit-il. Oui, vous. J'attendrai ici que le corps de mon frère passe devant moi, répliqua le jeune homme avec l'accent d'un sombre désespoir. Alors moi aussi je tâcherai de l'attirer à terre pour lui donner une sépulture chrétienne, et croyez-moi, une fois que je le tiendrai, je ne l'abandonnerai pas. » Ces mots sinistres furent entendus de Remi, et il adressa au jeune homme un regard plein d'affectueux reproches. Quant à la dame, depuis que l'enseigne avait annoncé cette mort du duc d'Anjou, elle n'entendait plus rien. Elle priait.